À voix nue. Cette semaine, Jean-Marc Crantor rencontre Jack Lang. Ce soir, ministre de la Culture, mais pas que.
Bonsoir, ce soir c'est la dernière avec notre invité exceptionnel, Jack Lang, ministre, ministre de la Culture, mais pas que. Bonsoir Jack Lang.
Bonsoir.
Vous avez été ministre de la Culture pendant 10 ans, mais vous avez occupé d'autres fonctions gouvernementales également.
Oui, j'ai eu la chance ou le privilège ou le bonheur d'être aussi ministre de l'Éducation nationale par 2 fois, une fois en 1993, une autre fois en 2000, et chaque fois pour résoudre une crise, mais pas que, comme vous dites vous-même. C'est-à-dire, mon ambition a été en même temps d'ouvrir des voies à des transformations profondes du système éducatif.
Pourquoi on fait appel à vous pour résoudre des crises dans l'Éducation nationale ?
La première fois, c'était François Mitterrand, en 1992, il était président de la République. La deuxième fois, c'était Lionel Jospin, il était Premier ministre. Alors pourquoi ? J'imagine que François Mitterrand, comme Lionel Jospin, pensait que mon expérience ministérielle, qui n'était pas mince, pouvait me permettre de mieux tenir les choses et de retrouver la confiance de la communauté éducative. Il pensait aussi que le rapport que nous avions établi, j'avais établi avec la jeunesse, pouvait être aussi un atout. En même temps, je dois vous dire très franchement que lorsque la première fois on m'a proposé d'aller rue de Grenelle, je n'en menais pas large. D'ailleurs, François Mitterrand m'avait demandé au moins à 2 reprises d'être ministre de l'Éducation nationale. Et j'avais réussi à résister, si j'ose dire. Ça ne me disait rien. J'étais très heureux comme ministre de la Culture, et je n'avais pas spécialement envie de devenir ministre de l'Éducation nationale. Petit à petit, les choses dans mon esprit ont germé. Et la première fois, donc, en 92, j'ai dit au président, j'accepte, mais je me permets de vous poser une condition, je souhaite rester ministre de la Culture. C'est ma maison, entre guillemets. Ce sera un havre de paix, ce sera un point d'appui. Et surtout, je pensais que la communauté éducative pourrait être touchée par le fait que l'on nommait un homme de culture, un homme de la culture, à la tête d'un ministère comme celui-là. Alors, ça a été 10 ou 12 mois de travail intense, être 2 fois ministre, ministre de la Culture, ministre de l'Éducation, croyez-moi, on ne se croise pas les bras. Mais en même temps, c'était passionnant, c'était inimaginable, c'était fabuleux. À l'Éducation nationale, il fallait d'abord calmer le jeu, redonner la confiance et la sérénité, tout en continuant les réformes, réforme du lycée, réforme de l'université, introduction de l'art et de la culture à l'école, et beaucoup d'autres changements. Tandis que j'étais requis aussi par le ministère de la Culture, par la crise des intermittents, déjà. Mais j'avais la chance, j'ai toujours eu la chance, d'être entouré d'équipes fabuleuses. Aussi bien à l'Éducation nationale qu'au ministère de la Culture.
Mais la charge était extrêmement lourde.
Très lourde, je dois dire que c'était du 100%. Les nuits étaient courtes. Mais je savais que ça se terminerait au moment des élections de 93. Donc il fallait se donner à fond les manettes. Moi, j'aime ce genre de défi. J'aime ce genre de situation. J'allais oublier de vous dire qu'on m'a demandé de résoudre la crise de l'enseignement privé. Là aussi, vous vous souvenez qu'il y avait eu des centaines de milliers de manifestants. Et ça m'amusait, ça m'intriguait, ça m'intéressait connaître le pourquoi du pourquoi. Et finalement, j'ai réussi à trouver avec l'Église catholique un accord équitable, qui était satisfaisant pour la République et satisfaisant pour l'école privée. Et là, nous avons fumé le calumet de la paix, et je crois que cet accord entre le ministère et l'Église catholique et d'un accord durable. Et puis alors, dans le deuxième mandat que j'ai exercé comme ministre de l'Éducation nationale, d'autres sujets venaient à moi. Les réformes qui avaient été engagées par Claude Allègre étaient excellentes, souvent. Mais il avait eu l'art de se mettre à dos la totalité des professeurs, des étudiants, et quand la confiance a disparu, c'est impossible de transformer quoi que ce soit. Et j'ai eu à cœur de faire aboutir plusieurs des réformes qui avaient provoqué la tempête. Par exemple, les TPE, les travaux pluridisciplinaires encadrés, qui étaient une très belle idée. Et je regrette d'ailleurs que l'actuel gouvernement remette en cause cette belle réalisation. Et ça contribue à faciliter l'apprentissage de la pluridisciplinarité et du travail en équipe. C'est excellent pour se préparer à l'entrée à l'université. Et d'autres réformes proposées par lui que j'ai prolongées, je pense notamment à l'harmonisation européenne des diplômes. J'ai créé les masters. J'ai instauré le système des crédits qui permettent aux étudiants de pouvoir faire valoriser dans leur diplôme d'autres études entreprises en France ou hors de France. Et c'était quand même dans la foulée de ce qui avait été imaginé par Claude Allègre.
En 1986, la gauche perd les élections législatives. Que faites-vous entre 1986 et 1988 ?
Disons, pour résumer d'un mot, je suis une sorte de porte-parole de fait de François Mitterrand. Et je crée un mouvement qui s'appelle Allons Idées, qui est sur tous les fronts, de l'art, de la culture, de la politique, de l'économie. Voilà, et pendant 2 ans, avec d'autres d'ailleurs, certains au Parti Socialiste, Lionel Jospin, d'autres sur un plan individuel comme Laurent Fabius, mais il se fait que j'exerce une fonction très particulière en lien permanent avec le président. Et donc, je suis une sorte d'agitateur, en quelque sorte, et un des contempteurs assez véhément, il faut le dire, du Premier ministre Jacques Chirac.
Vous préparez la campagne donc, présidentielle.
L'idée, c'est quand même de... François Mitterrand n'était pas à son plus haut étiage. Il fallait reconquérir les Français, leur retrouver la confiance. Et petit à petit, ils ont pu constater que cette confiance revenait. Il faut dire que notre adversaire, le Premier ministre, nous aidait beaucoup. Une loi universitaire qui suscitait la colère des étudiants. J'ai contribué d'ailleurs moi-même à participer à des manifestations. Des décisions contre les artistes, en particulier la suppression de la chaîne musicale qui provoquait le mécontentement. Voilà, nos concurrents nous ont facilité la tâche.
Donc vous revenez au gouvernement, vous êtes de nouveau nommé ministre de la Culture et de la Communication. Donc votre champ d'activité s'élargit.
Oui, on peut dire cela. Et en même temps, je m'étais déjà beaucoup occupé de communication antérieurement. Comme ministre de la Culture, tout simplement. J'avais par exemple, antérieurement, favorisé la création... ou l'idée de la création d'une chaîne culturelle européenne, qui plus tard deviendra Arte. J'avais été pleinement associé à toutes les lois sur la télévision pour assurer que le cinéma puisse ne pas être handicapé. Je m'étais engagé, ça a failli créer entre François Mitterrand et moi-même un clash au sujet de la création d'une chaîne privée en 85, confiée à Berlusconi, j'étais contre. Bref, j'étais déjà ministre de la Communication en partie, avant de l'être officiellement. Et puis là, il y avait auprès de moi, comme ministre délégué, une femme remarquable en 88, Catherine Tasca, et nous avons formé un tandem, un couple, si j'ose dire, assez efficace. La création d'une nouvelle autorité indépendante, un rapprochement entre les chaînes du service public, la création finalement d'Arte, dont le traité de fondation a été signé la veille de l'unité allemande. C'était très symbolique et très fort. Et d'autres mesures que nous avons pu prendre à cette époque.
Parlons des grands travaux. Oui. C'est une période au cours de laquelle vous menez cette politique avec un secrétaire d'État, d'ailleurs, avec lequel vous n'êtes pas toujours d'accord.
Si, en gros, alors, c'est moi-même qui ai contribué à le faire nommer. J'avais beaucoup d'estime pour lui. Dans ma thèse sur l'état et le théâtre que vous évoquiez, voici quelques jours, je consacre plusieurs pages à M. Biasini, qui avait été un fabuleux directeur du théâtre et des spectacles à l'époque de Malraux. C'est lui le créateur des Maisons de la Culture. Donc j'avais convaincu François Mitterrand de le solliciter pour s'occuper du Louvre. Et ensuite, après 88, il est devenu en effet secrétaire d'État. Mais je crois que François Mitterrand avait pleinement raison. Il fallait absolument que quelqu'un s'occupe totalement et à plein temps de la coordination de tous ces travaux. Les administrations elles-mêmes ne sont pas en mesure d'assurer la bonne marche, c'est-à-dire une marche rapide. La hantise qui était la nôtre, c'était que ces travaux ne soient pas terminés à temps.
Lorsque vous revenez au gouvernement, vous proposez à François Mitterrand de créer un ministère de l'intelligence et de la beauté. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ou c'est pas lorsque je reviens au gouvernement. Simplement, il se fait qu'à différents moments, dans des interventions publiques, j'avais repris cette expression qui avait été empruntée, je crois, à un gouvernement démocratique du Venezuela. Pendant quelques mois, ils avaient imaginé cette fonction. Au fond, c'était de rassembler dans une même main la recherche, l'éducation, la culture, et aussi les paysages, l'architecture et l'urbanisme. Mais je persiste à penser qu'il serait plus que jamais souhaitable qu'aujourd'hui soit créé réellement, non pas un ministère de l'intelligence et de la beauté, mais un ministère de la beauté, qui permettrait qu'il y ait une impulsion centrale, forte, puissante, pour favoriser, je dirais, la préservation des paysages, aujourd'hui de plus en plus mités, l'enseignement de l'architecture, parfois oublié, la création industrielle, elle-même malmenée, et aujourd'hui, l'architecture ne semble pas être au premier rang des préoccupations publiques, ni de l'État, ni des villes, et spécialement de la ville de Paris. Donc, je crois qu'il serait nécessaire aujourd'hui de créer un ministère qui réunirait dans une même main l'urbanisme, l'équipement, l'architecture, le logement, le paysage, l'enseignement. Ce serait très important pour éviter tout ce à quoi on assiste, c'est-à-dire une privatisation généralisée des villes et aussi des paysages. Je pense à Europa City, qui est une catastrophe. Ou encore à l'aménagement de la gare du Nord, qui risque d'être une catastrophe si on n'y porte pas remède, et ainsi de suite. Sans s'en rendre compte, on parle beaucoup patrimoine, 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 et je m'en réjouis. J'ai créé cette fête du patrimoine, je suis heureux qu'on soit attaché au patrimoine, mais le patrimoine d'aujourd'hui, le patrimoine de demain, même le patrimoine du XXe siècle, est-il protégé ? Il y a comme une sorte d'indifférence. Aujourd'hui, et je souhaite personnellement que l'on puisse redonner un élan et une force. Le seul moyen serait qu'on nomme une personnalité forte à la tête d'une sorte de mission centrale ou d'un ministère central qui regrouperait toutes ces administrations.
Il n'y a pas de personnalité forte aujourd'hui ?
Si, il y a, mais enfin, vous dites qu'il y a des structures qui permettent à ces personnalités de s'épanouir et de donner le meilleur d'elles-mêmes.
Et quand vous dites « on oublie », c'est qui, on oublie ?
Justement, je ne sais pas qui. Quand on parle architecture, qui est responsable de quoi ? Certes, l'enseignement de l'architecture et les fonctions administratives de l'architecture relèvent du ministère de la Culture. Mais dans le même temps, vous avez un ministère qui s'appelle, je crois, de la cohésion des territoires, qui s'y implique aussi. Et quelques autres. Les paysages, qui sait ? Je n'en sais plus rien. Chacun s'y perd. Il y a une illisibilité des choses. Et surtout, on aurait envie qu'il y ait un logos, un discours officiel fort, puissant, pour préserver toutes les formes de la beauté urbaine et de la beauté de la nature et des paysages.
De qui pourrait venir ce discours ?
Je crois qu'aujourd'hui, c'est clair, c'est le président de la République lui-même, dans le système qui est le nôtre, qui pourrait enclencher un tel changement.
Je disais ministre de la Culture, mais pas que. Vous avez été en 1989 maire de Blois. Pour quelle raison vous êtes-vous présenté
à... Les choses à l'époque étaient que lorsqu'on était dans la vie politique, ce n'était pas inévitable, mais presque indispensable, d'être élu local. J'ai été tardivement député, j'ai d'abord été ministre, ce qui n'est pas l'habitude. Je suis devenu député plus tard, en 86, et François Mitterrand m'a encouragé à conquérir une mairie. Comme j'étais député du département de Loir-et-Cher, la ville de Blois s'imposait. En plus, c'est une ville belle, attrayante, attirante, qui méritait aussi, je dirais, à la fois une préservation de son patrimoine, parfois un peu abandonné, et une modernisation.
Donc vous avez eu l'opportunité de mener au niveau local la politique que vous avez déployée au niveau national.
On peut le dire, oui. J'ai restauré le château de Blois, qui le méritait bien. J'ai créé des événements qui demeurent aujourd'hui. Je pense au rendez-vous de l'histoire de Blois, qui sont devenus un moment phare de la vie intellectuelle. J'ai créé une école du paysage qui, avec celle de Versailles, est l'une des plus réussies, je crois, aujourd'hui en France et en Europe, enfin, etc. Et puis j'ai eu la chance, surtout, d'être accompagné par un homme qui est un ami, un homme exceptionnel, Patrick Bouchain. C'est un architecte urbaniste, mais plus que ça, c'est un citoyen inventeur qui a réalisé mille et une choses à travers la France. Et c'est lui qui, à Blois, a conçu l'urbanisme, la construction d'un nouveau pont que nous avons appelé François Mitterrand, qui a rénové les quartiers populaires, qui a construit une nouvelle bibliothèque qui porte le beau nom de l'abbé Grégoire, imaginé aussi une université, un IUT, une école d'ingénieurs, et puis la réhabilitation des vieilles usines pour en faire des lieux de vie économique ou culturelle.
Et donc vous restez maire jusqu'en 2000. Après, est-ce que vous avez d'autres appétits politiques ?
C'est vrai que j'aurais aimé devenir le maire de Paris. Bon, il y a eu des guerres intestines au sein du Parti Socialiste qui m'en ont empêché. Et peut-être d'ailleurs que j'ai manqué moi-même au moment X d'une détermination assez forte. Je n'avais pas exclu d'être candidat à la présidence de la République, mais ce serait trop long dans le peu de temps qui vous reste à raconter. Ai-je été assez volontaire ? Peut-être pas. Mais chaque fois, je me suis heurté, disons, au système interne du Parti Socialiste.
Que reprochez-vous-t-il, ce système interne ?
C'est un système qui... C'est parfois un système et les personnes. Parce que le système, c'est le système, mais et les personnes. Bon.
Mais vous n'avez pas toujours été très tendre avec vos camarades socialistes, avec Lionel Jospin, avec Ségolène Royal.
Oui, enfin, ne pas parler en général comme ça, il faut parler concrètement. Quoi ?
Vous avez traité Lionel Jospin de loser ?
Oui, c'est vrai. Il l'avait été à un moment. Ce n'était pas complètement faux.
Et vous estimez...
Mais enfin, il a en même temps été vainqueur dans d'autres circonstances.
Et vous estimiez que Ségolène Royal n'était pas la candidate pour l'élection présidentielle.
Mais la preuve, c'est qu'elle n'a pas gagné. Que Nicolas Sarkozy a été élu. Mais elle a d'autres qualités. Elle a toujours été une excellente ministre. Vraiment, une excellente ministre. Mais était-elle la personne... heureuse, était-elle la personne juste pour être candidate à la présidence de la République ? La question demeure.
Vous quittez la vie politique sans regret, malgré vous, parce que vous perdez aux élections législatives ?
Oui. Je perds de quelques voix l'élection dans le département des Vosges. Finalement, je crois que je vous le disais au début de nos émissions, il faut parfois aussi se réjouir de ce qu'on appelle mauvaise nouvelle. Après tout, ça m'a permis de rebondir autrement, voilà. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être à la tête de cet institut du monde arabe.
Vous y êtes depuis janvier 2013. Pour quelles raisons avez-vous accepté cette fonction ?
Lorsque François Hollande a été élu président de la République, m'avait d'abord proposé d'être membre du Conseil constitutionnel. Fonction éminente, confortable.
Mais pas assez active pour vous, peut-être ?
J'aime le droit. Je suis, par ailleurs, à l'origine d'une réforme qui a modifié complètement cette institution, l'introduction, au moment de la présidence Sarkozy, de la question prioritaire de constitutionnalité qui permet de vérifier la conformité de toutes les lois à la Constitution, y compris des lois votées anciennement. C'est une petite révolution démocratique que nous avions introduite et qui, à l'époque d'ailleurs, a été contestée par les socialistes et la gauche. Et j'ai défendu avec fierté et bonheur cette idée qui a révolutionné notre système de droit. Mais je n'avais pas envie, voilà. J'avais pas envie et je lui ai dit, je souhaite continuer à mener des actions concrètes. Et c'est moi-même qui lui ai proposé l'Institut du Monde Arabe. Et l'Institut du Monde Arabe était en crise, crise financière, crise de vocation, disons, crise d'identité. Et il ne m'a pas dit oui immédiatement. Quelques mois plus tard, il m'a fait savoir qu'il acceptait ma proposition. Donc c'est moi-même qui lui ai proposé de devenir président de l'Institut. Pourquoi ? Parce que j'ai contribué à la construction de cette maison. J'ai fait appel à l'époque à Jean Nouvel, un illustre inconnu, devenu depuis lors une superstar mondiale. Je suis passionné par le monde arabe. Ce n'est pas sans lien avec les combats que j'ai menés adolescent contre le colonialisme. Et j'avais noué avec des artistes, des créateurs de ces pays, des liens très étroits. Et puis j'aime les choses difficiles. Et à l'époque, il fallait se défoncer pour que l'Institut retrouve un éclat, des financements, un équilibre et une direction.
Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui, Jack Lang ?
Qu'est-ce qui m'anime ?
Oui.
Le bonheur de la rencontre humaine. L'action, bien sûr. Je reste profondément un homme d'action. Et surtout quand c'est difficile. Ça m'excite, ça m'enivre de devoir résoudre une question jugée impossible. Ce qui m'anime, c'est l'amour de la beauté, l'amour d'une forme d'harmonie. C'est beau, la vie humaine, je trouve ça fantastique. Enfin, le beau. L'autre jour, quelqu'un en parlait beaucoup mieux que moi à la radio. La beauté sous toutes ses formes. La beauté, c'est effectivement un livre, un poème, un film, un orchestre, les voix d'opéra. Ben, par exemple, je suis chaque fois subjugué. Je me dis, mais est-ce possible ? Je ne crois pas en Dieu, mais je me dis, là, Dieu est quelque part, quand même. Quand on pense qu'aujourd'hui, même des comédiens de théâtre se font épauler ou accompagner par des micros, c'est incompréhensible. Ces chanteurs d'opéra, ces chanteuses d'opéra, sortent du plus profond d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes des sonorités vertigineuses, étonnante, bouleversante, c'est déchirant, c'est la plus belle des choses qui soit. Bon, la chorégraphie aussi, j'aime énormément les chorégraphes contemporains, Pina Bausch qui a été découverte à Nancy, mais aujourd'hui d'autres générations qui apparaissent, venant de différents pays, d'Israël, du Canada, voilà, et tout ça m'enivre et me remplit de bonheur.
J'ai deux questions très personnel à vous poser. Que ressentez-vous le 8 janvier 1996 à l'annonce de la mort du président François Mitterrand ?
Ce jour-là, j'étais à Nanterre, enseignant le droit international, je crois, à mes étudiants, et quelqu'un est venu m'apporter une missive indiquant que le président venait de mourir. Je l'ai appris par cette missive. J'ai été évidemment estomaqué, même si je savais son état très grave. Et je l'ai dit à mes étudiants, je leur ai dit, je dois vous quitter pour aller pour me rendre au domicile de François Mitterrand. Mais longtemps j'ai cru qu'il réussirait à faire reculer le mal.
J'ai vu que vous êtes confié récemment à la presse sur la disparition de votre fille. C'est extrêmement douloureux, j'imagine.
Oui, pour moi-même et pour ma femme Monique, pour ma fille, sa sœur Caroline. Oui, c'est une épreuve dont on ne se guérit jamais. C'était une jeune femme éblouissante, une comédienne ardente et généreuse. C'était aussi une militante. Elle s'est beaucoup battue avec une force rare pour les sans-papiers, contre toutes les formes de racisme. Elle a embarqué avec elle à l'église Saint-Bernard Emmanuel Béart et un peu plus tard Josiane Balasco dans d'autres aventures contre le mal logement et surtout en faveur des immigrés ou des migrants. Quand on dit, vous savez, on dit habituellement quelqu'un nous manque, mais dans son cas, à chaque instant, nous nous demandons intérieurement comment elle aurait réagi, comment elle aurait pensé. Tous les départs sont inacceptables ou inacceptés. Dans le cas de Valérie, c'est proprement insupportable. Vraiment insupportable.
À 80 ans, êtes-vous un homme heureux ?
Je ne sais pas quel rapport ça a avec l'âge. Je ne sais pas très bien si l'âge se coïncide avec le bonheur ou le malheur. Non, je préférerais avoir 20 ans, naturellement. Mais je me sens aujourd'hui toujours aussi vigoureux, toujours aussi enthousiaste, toujours aussi bagarreur, toujours aussi moi-même, si j'ose dire. Et je n'arrive même pas, bon, ça paraîtra un peu de l'inconscience absolue, je n'arrive même pas à percevoir l'âge qui est le mien, je ne sais pas. Je ne peux même pas vous croire. D'ailleurs, je pense que vous avez inventé pour me provoquer ou me tester cet âge fictif.
Monsieur le ministre, cher Jack Lang, merci d'avoir accepté de passer cette semaine avec nous. Merci pour ces échanges riches et captivants. Merci de nous avoir accueillis si généreusement dans votre bureau à l'Institut du Monde Arabe.
Merci.
Fin de cette rencontre de Jean-Marc Cantor avec Jack Lang. À voix nue, réalisation Marie Placet. Prise de son, Georges Tau, attaché de production, Daphné Abgral, coordination, Sandrine Trainer. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.